J'entends les stylos qui se dégainent là. C'est marrant ça. Ça va ? Moi j'ai l'impression d'avoir perdu une heure cette nuit là, je suis fatigué. C'est terrible. Alors bonjour à tous, à ceux que je n'ai pas encore salués. Je suis Walter Alexandre, je suis un évangéliste. Et un évangéliste, c'est celui qui réfléchit à comment apporter Jésus à une société qui finalement ne veut pas réfléchir à ça. Alors comment est-ce qu'on apporte Jésus ? Comment est-ce qu'on donne Jésus sans brusquer, sans faire peur, sans forcer pour donner cette bonne nouvelle ? Alors je suis marié à Laetitia, alors ouais, aujourd'hui on fait un culte en famille, vous avez vu. Et c'était elle qui préside, et voilà, nous avons 3 enfants. Alors une fois n'est pas coutume, je ne vais pas prêcher sur un texte biblique. Vous savez que pour moi il est très important de prêcher sur la Bible, mais aujourd'hui nous allons faire ensemble de l'apologétique. Ok, c'est un gros mot, oublié. L'apologétique c'est simplement se défendre un point de vue. Et je ne sais pas vous, mais je sens que le temps de Pâques arrive. On était au week-end le week-end d'église au Rodberg, et puis en repartant, on est allé direction le Gâchenet pour se balader encore un peu. Et en montant au Gâchenet, c'était marrant parce qu'on voyait plein de prés qui étaient déjà remplis de lapins, d'énormes œufs, qu'est-ce qu'il y avait encore ? Des cloches comme ça qui se baladaient dans les prés. C'était assez marrant. Et je me suis dit, eh ben oui, c'est vrai. Le temps de Pâques arrive, on est à moins de 3 semaines. Alors je vous ai dit qu'on va réfléchir ensemble pour défendre un point de vue, et ce n'est pas n'importe quel point de vue qu'on va prendre, c'est la résurrection de Jésus. La question que nous allons poser ce matin, c'est est-ce qu'on peut vraiment croire à la résurrection de Jésus, nous maintenant en 2025 ? Cette histoire qui est complètement bizarre, un peu folle, quelqu'un qui est ressuscité, c'est bizarre. Si la résurrection n'est pas vraie, alors tout le fondement chrétien s'effondre. Du coup, il est très intéressant de partir en enquête et regarder si oui ou non, ça a existé. Alors, avant de partir en enquête, on va faire quelques suppositions. Alors, si on dit que, effectivement, Jésus est vraiment ressuscité, on part pas, on n'a pas encore fait notre enquête, hein, mais si Jésus est vraiment ressuscité, la première chose, c'est qu'en réalité, nous n'avons plus vraiment le choix. Si Jésus est vraiment ressuscité, alors nous devons l'écouter. Parce que tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, est authentifié par Dieu lui-même. La deuxième chose, c'est que finalement, si Jésus est vraiment ressuscité, tout n'est pas que matériel. Si on prouve que Christ est ressuscité, vous comprenez que notre monde est aussi un monde spirituel. Troisièmement, la foi n'est pas une question d'un manque en toi. Alors, Freud, Marx, Nietzsche, ils disaient que le problème de la foi, c'est que c'est un problème en toi parce que tu as manquer quelque chose, il y a une crainte, et Laetitia elle pourrait vous en parler, mais c'est, voilà, c'est pas que ça finalement. Et puis une dernière chose, si Jésus est vraiment ressuscité, alors il a ouvert une voie, la mort n'est pas une fin en soi, il y a de l'espérance. Alors on y va, on va commencer notre enquête. Et comment est-ce qu'on fait pour partir en enquête ? Qu'est-ce qu'on doit faire, à votre avis ? Et je vous laisse la parole. Trouver des témoins. Ouais. Donc, on va accumuler des preuves. On va essayer de chercher des preuves. Avant de chercher des preuves, je vous propose de chercher les limites, ce qu'on ne sait pas. À votre avis, qu'est-ce qu'on ne sait pas sur la résurrection de Jésus. Allez, il y a 4 choses, grosso modo, qu'on ne sait pas et que la Bible ne nous donne pas. Voilà. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'on ne peut pas savoir sur la résurrection ? Yep. Le. Où est son corps ? Oui, exact. Ce qu'on ne sait pas non plus, c'est justement, c'est que personne n'a été témoin de la résurrection. Il n'y a personne qui était dans le tombeau avec Jésus, qui était en train d'écrire comme ça, et qui disait, bon, 10h12, Jésus a ouvert un premier œil. 10h13, il m'a fait un petit coucou comme ça. Non, ça on n'a pas. On n'a pas de témoin oculaire de Jésus qui se lève. Tout ce qu'on sait, c'est que le tombeau a été trouvé vide. Il est vide. Deuxième limite, les seuls récits qu'on a de la résurrection de Jésus sont écrits par des croyants. Il n'y a pas de témoignage extérieur neutre, en quelque sorte, sur l'événement. Et cela peut poser des questions. Finalement, est-ce que ces croyants, ils n'auraient pas inventé une histoire à dormir debout ? Troisième limite qu'on peut trouver, Jésus ressuscité ne se manifeste pas au peuple. Contrairement à ce qu'il avait fait lors de son ministère public, et bien là, les récits bibliques, ben, ils disent que Jésus... Il fait des apparitions à ses disciples, des fois à des non-croyants dans du 1 à 1, des fois à des foules quand même de 500 personnes, mais c'est tout. On ne le voit plus gambader dans tout Israël. Et quatrième limite, on n'a aucun récit complet de la résurrection, proposant une synthèse chronologique des événements de cette folle journée. Le compte-rendu des quatre évangiles sont différents et chacun d'eux est écrit à partir de l'un ou de l'autre personnage et cela oblige à une certaine harmonisation. Et c'est difficile, hein, pour certains, on a du mal à comprendre la résurrection parce que quand on lit les évangiles, on voit que tout n'est pas toujours très clair. Mais en réalité, c'est possible de les harmoniser. Mais certains préfèrent croire à des oppositions dans les évangiles. Ça, ce sont les limites que nous avons. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant comme preuve ? Alors, dites-moi un peu, quelles sont les certitudes que nous avons ? Certitudes, hein ?
Le corps n'a jamais été retrouvé.
Ok, le corps n'a jamais été retrouvé, oui. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme certitude ? Je vous aide, un peu avant la résurrection. Le tombeau était scellé, ça c'est aussi une certitude qu'on a. Avant encore, le tombeau scellé, il est bien mort. Même encore avant, on sait que Jésus de Nazareth, a été crucifié. Ça on le sait. Il n'y a pas que la Bible qui nous le dit, on a beaucoup de témoignages extra-bibliques qui nous disent ça. Jésus, cet homme un peu bizarre, qui vient de Nazareth, a été mis sur une croix. Oui, ça, c'est sûr. La documentation nous le donne. Le deuxième fait, c'est la mort de Jésus. Suite à la résurrection, suite à la crucifixion et à toutes ces souffrances, les autorités l'ont constaté. Les femmes étaient présentes lors de la descente de la croix de son corps, de la mise au tombeau. Et l'apparition de sang mêlé, de l'eau mêlée au sang. Vous vous souvenez quand le centurion il a percé comme ça la côte de Jésus, on voit de l'eau et du sang qui sont sortis. Et là, eh ben, on suppose fortement un œdème pulmonaire. Christ est fortement mort. On pourrait penser qu'il est mort par un arrêt cardiaque. Le cœur qui n'arrive plus à pomper, à évacuer cette eau. Et il meurt prématurément comme ça sur cette croix. Christ est bien mort, ça c'est sûr, parce qu'on peut aussi dire que les Romains, ils savent faire deux choses super bien. Les bains romains, et ça c'est la classe quand même, un bain romain, franchement, ça j'aurais voulu voir dans le temps, ça devait être vraiment la classe. Et la deuxième chose qu'ils savent super bien faire, donner la mort. Alors si jamais vous voulez tuer quelqu'un, vous demandez à un Romain, il sait comment ça marche. Bon, je vous le conseille pas, hein, c'est pas cool. Hein. Mais néanmoins, oui, les Romains étaient experts à donner la mort. Et ça, on a beaucoup de documentation sur ça. C'est assez terrifiant, mais il n'y a aucun doute. Quand on met quelqu'un sur une croix, il n'y réchappe pas. Troisième chose où on est sûr aussi, c'est quel est l'état des disciples après la mort de Jésus. Ils sont complètement abattus, complètement effondrés. Tout s'écroule pour eux. Et à ce moment-là, la mort de Jésus, elle entraîne la fin de leurs rêves. Ils ont suivi un bonhomme pendant 3 ans et tout s'écroule du jour au lendemain. Une catastrophe pour eux. Ils s'enferment, ils se terrent, ils ont peur et ils n'ont jamais cru qu'ils pouvaient mourir comme ça. Et quatrième chose qu'on peut dire encore, toujours par rapport aux disciples, une petite semaine après, ils sont au taquet. Mais alors quand je dis au taquet, ils courent comme des lapins, hein, vraiment comme des lapins, c'est impressionnant, hein. Donc oui, on voit qu'il y a cette force et cette conviction, ils prêchent à Jérusalem le ressuscité Jésus, et c'est de là que naît l'Église, la première Église. C'est là que naissent les premiers chrétiens. Voilà, une fois qu'on connaît les limites, ce qu'on ne sait pas, une fois qu'on voit quelques preuves, ce qu'on sait, eh bien, on voit qu'il y a quand même beaucoup de gens qui font des critiques et qui vont nous dire « Non, mais finalement, c'est quand même une histoire à dormir debout, c'est une histoire qui a été inventée. C'est du gros n'importe quoi. » Comment est-ce qu'on peut répondre à ça? C'est vrai que les évangiles ne s'emboîtent pas immédiatement hein, sur la résurrection. Ils sont donc indépendants et par rapport à l'histoire de la résurrection. Mais en dépit de toutes leurs différences, ils concordent sur un point. Les femmes et les disciples ont découvert un tombeau vide. Alors il faut comprendre que quand nous lisons la Bible, nous, actuellement, les gens avec nos yeux du 21e siècle, eh ben, c'est pas du tout... On a des fois du mal à interpréter, à interpoler. Parce que quand les disciples ou les évangélistes ont écrit leurs lettres, eh ben, ils n'avaient pas du tout la même culture que nous. Et il y a un truc qui cloche avec cette histoire, si elle est vraiment inventée. Le rôle, déjà, des femmes. Franchement, si dans le temps, tu inventes une histoire à dormir debout sur une résurrection, je ne mettrai vraiment pas les femmes en première position. C'est n'importe quoi. Une femme, on ne peut pas lui faire confiance. Elles ne font que radoter, que raconter des histoires à dormir debout, et du coup, si j'invente une histoire, je ne la mettrai pas en pole position. Alors, je vous rassure, hein, j'ai un immense respect pour vous les femmes, mais dans le temps, les femmes, on ne leur confiait pas la première place. Et mettre des femmes en pole position, je trouve ça tellement merveilleux dans la Bible, mais... Une histoire inventée n'aurait jamais mis des femmes en première position. Elles qui vont voir et qui vont entendre et voir des anges leur dire « Non, mais Jésus n'est pas là. Il n'est plus dans ce tombeau. » De plus, les hommes, les vrais, les durs, qui ne doutent jamais, qui ont compris tout du premier coup, non, ça c'est pas trop l'histoire de la Bible. Effectivement, quand on voit les disciples n'ont rien compris. Ils sont effondrés par la mort de Jésus. Et ils ont un rôle qui est peu reluisant finalement. Et si cela avait vraiment été inventé, écrit par ces disciples-là, hein, franchement, ils seraient mis peut-être un peu plus en valeur que ce qu'on peut lire dans les quatre évangiles, où on voit qu'ils ont peur, qu'ils n'ont rien compris au message, qu'ils se tairent et ils ferment la porte à double clé. Vous comprenez, une histoire inventée ne mettrait déjà pas la femme en première position, les femmes en première position, et mettrait une meilleure image quand même des disciples. Mais après les femmes et les disciples, il y a un troisième argument sur un récit qui serait inventé. C'est le contexte de la croix. Une mort qui est horrible, mais surtout une mort honteuse. D'autres, avant Jésus, avaient déjà éveillé des espérances. Et dans la Bible, on voit certains endroits où il y a des gens qui se lèvent essentiellement pour combattre ces méchants Romains, et certains se disent « Waouh, c'est peut-être le Messie, et on va le suivre ». Et finalement, quand cette personne meurt, souvent à cause des Romains, on se rend compte que zut, c'était pas le Messie. Tout qui s'effondre. Et il faut attendre encore que Dieu nous donne vraiment le Messie. Et donc, si vous comprenez que la croix est une mort qui est honteuse, si vous comprenez que Jésus était particulièrement mis sur cette croix et c'est honteux pour tous ceux qui l'ont suivi, ça sonne le glas à toute l'espérance liée à sa personne. C'est fini. La croix, c'est la honte. Il fallait du coup attendre quelqu'un d'autre. Et donc, voir l'Église grandir à partir de ça, à partir de cette honte, c'est costaud déjà. Et il y a une dernière chose encore qu'on peut parler sur le fait que ce récit n'est pas inventé. Que ce n'est pas un récit mytho finalement. C'est l'idée de la résurrection. Et alors, pour comprendre l'idée de la résurrection, il faut que vous compreniez la mentalité du temps. Je vous ai dit que nous, on lit souvent la Bible avec nos yeux du 21e siècle, mais dans le temps, nous avons, parmi les Juifs, deux styles de personnes par rapport à la résurrection. On a les Sadducéens, ça y est, ça marche mieux, qui finalement, eux ne croient pas du tout en la résurrection. Pour eux, une fois que t'es mort. Donc on a déjà une frange de la population qui ne croit pas du tout à la résurrection. Et l'autre partie des Juifs qui croient à la résurrection, c'est une résurrection collective à la fin des temps, comme ce que Daniel nous donne dans son chapitre 12. Donc, pour certains juifs, on ne croit pas du tout à la résurrection. Pour d'autres juifs, on croit à la résurrection des morts, mais tous ensemble à la fin des temps. Donc, quand Christ viendra en tant que Messie, tout le monde ressuscitera. Ça, c'est la mentalité qu'il y avait à l'époque. Donc, sortir un récit de leur imaginaire qu'il n'y a qu'un seul bonhomme qui va ressusciter, sans que tous les autres ressuscitent, c'est pas possible. Ce n'est pas leur schéma de pensée. Ils sont à mille lieues de penser à ça. Et on le voit pour eux, on le voit dans les évangiles, quand Jésus est encore avec eux, on voit qu'ils ont du mal à comprendre. Et il est difficile de penser que le récit du tombeau vide aurait été inventé pour affirmer que la cause de Jésus continuait ou pour faire croire qu'il est toujours là. Ce qui a tout lancé ce dimanche matin, c'était la découverte déroutante, pour une raison ou une autre, le tombeau est vide. Mais dire que le tombeau est vide n'est pas encore affirmer la résurrection de Jésus. En effet, d'autres hypothèses peuvent l'expliquer. Qu'est-ce qu'on a encore comme hypothèse qu'on pourrait dire? Les disciples ont volé le corps. est-ce que c'est possible? Parce que ça, c'est une accusation qui circulait dans la Bible. Hein. La Bible nous dit à un moment donné qu'on accusait les disciples d'avoir volé le corps. Mais le problème, c'est que déjà s'ils volent le corps, on a dit hein, juste avant, ils auraient dû inventer cette histoire de la résurrection. Et ils sont à mille lieues d'avoir inventé et de pouvoir comprendre ça. Mais il faut ajouter à cela la condition dans laquelle les apôtres ont dû défendre. Alors attendez, il faut que je regarde. Ouais. Ils ont dû défendre justement ce coup monté finalement. Parce que les apôtres, quelque temps après, et pas longtemps après, ils ont été persécutés jusqu'à la mort. Et ils ont tous donné ce témoignage de la résurrection de Jésus. Et personne n'a lâché ce témoignage. Et difficile pour un groupe de tenir sans faille avec une telle pression pour défendre finalement quoi ? Un coup monté ? Un mensonge ? Dans les années 74, pour les plus anciens, si vous vous souvenez du Watergate, vous connaissez le Watergate ? Aux États-Unis, un petit coup monté assez sympa, et il y a Charles Carlson qui faisait partie de ce coup monté, ben, il disait que, ça a donné la démission hein, du président des États-Unis, Richard Nixon, mais ça a donné, il nous explique justement ce qui se passe quand une équipe monte un coup monté, enfin fait un coup monté, et lorsque le navire commence à prendre l'eau, tout le monde est encore bien soudé, il n'y a pas de problème, on serre les coudes. Mais quand on voit que les choses tournent mal, c'est chacun pour sa peau. Et cette logique, elle se vérifie souvent. On va balancer les autres. Et là, chez les disciples, personne ne balance personne. Les gens sont prêts à mourir en disant que Jésus est ressuscité. Donc, dire que les disciples vont voler le corps, inventer une histoire et finalement accepter la mort, difficile à croire. Qu'est-ce qu'on pourrait encore dire? Il y a encore d'autres accusations qu'on nous dit. Moi, j'ai déjà entendu, en réalité, tu sais, Jésus, il n'était pas vraiment mort. D'accord, ok. Si Jésus n'est pas vraiment mort, c'est que tu n'as pas compris vraiment ce qui se passe sur une croix. Donc, on a dit hein, que déjà, les Romains, eux, ils sont experts pour zigouiller les gens. Mais le truc, c'est que la crucifixion, elle est là pour labourer le corps. Si supposons que Jésus ne soit pas mort après ce supplice, en sachant que juste avant, il y a eu la flagellation, sévère, dure. Supposons qu'il ne soit pas mort, qu'il ait réussi à survivre au froid du tombeau. Vous croyez vraiment que Jésus, il se lève, tout triomphant, faut qu'il ouvre aussi hein, la grande pierre qui est roulée de l'intérieur, hein, et ça en toute discrétion parce que les gardes sont là, ok ? Il vient, il rampe tel qu'il peut jusqu'à ses disciples. Et les disciples, je vous garantis qu'ils auraient préféré cette histoire. Parce qu'au moins leur champion ne serait pas mort honteusement sur une croix. Mais en aucun cas, Jésus ne serait venu triomphant comme il est montré dans les témoignages. En aucun cas, on verrait un Jésus en pleine forme. Il aurait mis des semaines et des mois à s'en remettre, si on s'en remet, d'une crucifixion. Donc vous comprenez que ça, c'est pas possible. Jésus est bel et bien mort. Il n'a pas pu être un rescapé de la croix. Des fois, on me dit aussi, oh Alexandre, tu sais, en réalité, ce qui s'est passé, c'est que Jésus, lui, ben, il est mort, enfin, il est mort, mais on a juste volé son corps. On a volé son corps, et puis les disciples, ils sont un peu crédules, et puis on les a un peu bernés, on leur a fait croire qu'ils sont ressuscités, et voilà. Ok. Mais ça ne tient pas à la route non plus, cette histoire. Pourquoi ça ne tient pas à la route ? Le déplacement du cadavre, ça, c'est la première hypothèse que les femmes dans la Bible nous donnent. Quand elles rencontrent ce soi-disant jardinier, oh, « Seigneur, où as-tu mis le corps pour qu'on puisse le remettre à sa place ?» Si effectivement, on avait vraiment volé le corps, les disciples qui avaient tellement aimé Jésus auraient tout fait pour retrouver son corps et l'ensevelir dignement de nouveau. Ils seraient partis à la recherche du corps. Or, très vite, on voit que les disciples, ils ne parlent pas du tout ce langage-là. Ils vont parler autre chose. Et quelque chose a dû se passer. On n'abandonne pas un tel devoir, en quelque sorte, par rapport à un grand maître qui serait mort. On chercherait son corps, mais là, ils ne cherchent pas du tout son corps. Ils racontent autre chose. Et puis, il y a un autre problème. Si on est un voleur, pourquoi est-ce qu'on vole le cadeau en l'ayant déballé ? Pourquoi est-ce que le linceul, il est là ? On nous dit dans les témoignages que le linceul est là, à la même position, effondré sur lui-même. Que le carré de tissu qui recouvrait son visage était plié et posé proprement. Alors moi, franchement, si je suis un voleur, j'emmène tout le papier, tout le cadeau avec, parce que c'est plus facile à transporter. Mais pourquoi s'embêter à le délier et essayer de remettre comme on peut ? Liste. Et tout ça, on pense au corps, fortement, aux gardes qui sont là, qui surveillent, tout ça. C'est compliqué, hein ? Et il y a encore un autre problème, c'est que avec tous les moyens d'enquête dont disposent les chefs religieux à l'époque, il était facile pour eux de prouver cette supercherie. Cela n'a jamais été fait. Alors que le message de la résurrection de Jésus, ça irrite au plus haut point. Et il faut souligner ici un point essentiel. La résurrection de Jésus a été annoncée sur les lieux mêmes où la vérification avait été possible. On est en terrain hostile. Et tout pousse les chefs religieux à prouver que c'était faux. S'ils avaient pu établir le mensonge ou la supercherie, trouver une faille dans le témoignage des apôtres, produire un cadavre de Jésus, ils l'auraient fait et ils l'auraient publié haut et fort. Ils étaient sur les lieux mêmes de l'événement, avec de nombreux moyens d'investigation. Mais ils n'ont rien pu faire. Ils n'ont rien pu prouver. Le message chrétien fondé sur la résurrection de Jésus s'est maintenu et s'est développé à Jérusalem sans pouvoir être contesté. Et alors, moi, je suis toujours un peu contrarié quand les gens voient que, enfin, qui comprennent que je suis chrétien et qui comprennent que je crois en Christ aussi ressuscité, parce que des fois, je vois les gens me faire ce petit sourire. Vous avez déjà vu ces gens qui vous font des petits sourires pour dire « Non mais franchement, c'est n'importe quoi. » Tu vois, ils te prennent vraiment pour le pire des neuneux. Et vraiment, tu crois en n'importe quoi, mais vraiment, t'es crédule à mort. Non mais laisse tomber. Alors moi, ça m'embête toujours, parce que le problème, c'est « Ok, tu ne crois pas. » Mais alors explique-moi le tombeau vide. Prouve-moi que Jésus n'est pas ressuscité. Pourquoi c'est toujours à nous de défendre le tombeau vide ? Et pourquoi c'est pas à toi de me donner une meilleure alternative ? On croit toujours que les disciples de l'époque ou les femmes de l'époque ont été crédules à fond. Mais non, moi je vous garantis que notre époque actuelle, là au XXe siècle, on fabrique beaucoup plus de gens qui croient en tout et n'importe quoi que les disciples et les femmes de l'époque de Jésus. Alors ça c'est un truc entre nous, mais au boulot, quand un collègue me dit, et qu'il est persuadé à mort, hein, mais il est sérieux, hein, parce que j'étais en train de regarder dans ses yeux s'il est en train de blaguer ou pas, et il me dit que Emmanuel Macron, c'est un lézard. Je me dis, sérieux ? Et après, tu te moques de moi parce que je crois en Jésus ? On n'est plus sur la même planète, là. Vous comprenez ? Un Thomas, un Pierre, une Marie. Je vous garantis que c'est des gens, il leur faut plus qu'un tombeau vide pour prouver la résurrection de Jésus. Le meilleur exemple, c'est les disciples d'Emmaüs. Regardez ce qu'ils disent dans Luc 24. Ils disent, les disciples, « Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont fort étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et annoncé qu'il était vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais ils ne l'ont pas vu. Point. Et ils sont partis. » Vous comprenez ? Il a fallu tout un chemin. Il a fallu tout le partage d'un repas et des explications pour qu'ils comprennent enfin que Jésus est ressuscité. Ne me dites pas que les disciples d'Emmaüs étaient crédules et qu'ils croyaient en tout et en n'importe quoi. Et je mets toute personne au défi de me montrer que Jésus n'est pas ressuscité. Et bon courage. Car il va falloir encore me dire pourquoi il y a cette joyeuse et forte assurance des disciples, soudain prêts à affronter le monde entier, l'hostilité des chefs religieux et même la mort en proclamant la résurrection de Jésus. Comment on fait pour passer d'un deuil à une telle assurance ? En quoi ? En une semaine ? En deux semaines max ? Waouh ! Et les apôtres ne sont pas les seuls à avoir changé d'attitude. Les personnes qui n'avaient pas cru en Jésus pendant son ministère se retrouvent soudain également à leur côté. On pense par exemple à Jacques, qui est le frère de Jésus. Pendant tout le temps du ministère de son frère, il n'a pas cru en lui. Et il le critiquait en le poussant à se manifester avec puissance. Et on le retrouve tellement changé par la suite. Lisez la lettre de Jacques, c'est génial, quoi. Plus tard, on découvre l'apôtre Paul, farouchement hostile à la cause de Jésus, et totalement retourné du jour au lendemain pour devenir un témoin engagé de Jésus. Ces témoignages sont des données indiscutables de l'histoire du christianisme. Il ne suffit pas de contester les faits. Il faut encore nous expliquer pourquoi toutes ces personnes-là, elles ont couru, elles sont allées de l'avant. Pourquoi il y avait cette telle joie ? Pourquoi le christianisme a commencé à cette époque-là ? Ce n'est pas logique. On ne commence pas une religion, une morale philosophique en quelque sorte, sur une mort honteuse d'un bonhomme comme ça, comme un voleur sur une croix. Et il y a un autre point, un dernier point qu'il va falloir aussi m'expliquer, c'est que Jésus a été vu. Alors là, il est important de bien préciser le vocabulaire. On ne parle pas de vision ou d'apparition. Ok ? Ça, c'est de l'ordre un peu de surnaturel. Ça peut arriver. Mais là, non. Là, ce qu'on parle, c'est vraiment une rencontre avec le ressuscité. La présence de Jésus vivant, expérimenté, comme celle d'un homme qui marche pendant un long moment avec les disciples d'Emmaüs, en leur parlant en chemin, avant de disparaître. Les disciples témoignent qu'il leur a montré ses mains et ses pieds, qu'il leur a demandé à manger et à manger avec eux, devant eux. Alors que ces disciples-là, ils pensaient fortement à un esprit au début. Hein, c'est le texte qui nous le dit. Mais Jésus a eu ses paroles et ses gestes devant eux pour leur montrer qu'il avait bien un corps. Il a eu des interactions avec eux. Et les personnes, au moment où il les a rencontrés avec des actes aussi concrets que ceux de donner ou de recevoir de la nourriture. Et le Christ ressuscité change d'interlocuteur. Il se déplace, s'adresse à l'un, puis l'autre. Et au cours d'une même rencontre, et Pierre nous dit, nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection des morts. Et tout cela n'a rien à voir avec ce qu'on appelle aujourd'hui une vision ou une apparition. Et on constate une immense diversité. Elle touche des personnes inattendues, les femmes qui ne cherchaient pas Jésus vivant, ainsi que certains qui ne croyaient en plus rien, comme les disciples. Elle intervient également dans les lieux et dans des contextes très différents. Et certaines personnes sont rencontrées de manière privée et d'autres sont rencontrées dans d'énormes groupes, soit des groupes d'apôtres, soit ces fameuses 500 personnes à la fois. Et tous ces gens ne peuvent pas avoir été victimes, tous ensemble, d'hallucinations. Chaque fois, un changement, significatif et inattendu a été provoqué dans leur vie. C'est ça, hein, quand on rencontre le ressuscité. Alors oui, nous n'avons pas la preuve directe de la résurrection de Jésus. Personne n'était là dans le tombeau. Jésus ne s'est pas baladé encore pendant 10 ans comme ça en Israël pour montrer qu'il était ressuscité. Mais toutes les preuves indirectes nous mènent à la résurrection. Et si l'on n'admet pas la résurrection, il faut nous donner une alternative. Il faut me donner une alternative plausible. Et elle n'a jamais été trouvée en 2000 ans d'histoire. Et je vous garantis qu'il y en a beaucoup qui ont cherché. Mais finalement, on commence à comprendre que la résurrection est bien solide. Mais pourquoi la résurrection ? Oui, c'est vrai ça. On se pose la question de est-ce que la résurrection est possible ? Ce n'est pas la bonne question. La bonne question, c'est pourquoi Jésus devait-il ressusciter ? La résurrection de Jésus, elle est là pour attester tout ce que Jésus a dit. La résurrection de Jésus est là pour dire oui, le sacrifice de Jésus suffit à nous délivrer de nos mauvaises conduites. Grâce à la résurrection de Jésus, on peut souffler. Waouh, c'est bon, c'est sûr. Il suffit simplement de croire en Christ et de l'accepter dans ma vie. Tout le mal qui me colle à la peau, tout ce mauvais penchant que j'ai, toutes les fautes que j'ai commises, tout ce que j'ai loupé et que j'aurais dû faire, tout ce qui m'éloigne de Dieu. Ben Jésus, dans sa mort sur cette croix, me permet de me rapprocher à nouveau de Dieu. Et cela, c'est attesté, c'est confirmé, c'est validé par la résurrection. Si la résurrection de Jésus n'était pas vraie, si c'est un mythe, c'était une fable, alors tout ce qu'il nous a montré Jésus, tout ce qu'il est venu faire sur cette terre ne sert à rien, car cela n'est pas confirmé. Et finalement, on se retrouve dans la même posture que les musulmans qui pourraient nous dire « Inch'Allah, je ne sais pas si je serai pardonné. Seul Dieu le sait. S'il le veut, il peut me pardonner. » Non, nous avons cette certitude. Si la résurrection est vraie, alors oui, tout ce que Jésus a fait, a dit, a montré est vrai. Et nous savons alors que nous sommes pardonnés et nous pouvons respirer. Oui, Dieu t'accepte si tu acceptes Jésus. Et si c'est la bonne, et c'est ça la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est que Dieu ne force personne. À l'image du mariage, je peux forcer une femme, par exemple, à se marier avec moi, mais je ne peux pas la forcer à m'aimer. Et Dieu, eh bien, il fait pareil, il t'aime tellement fort qu'il envoie son fils unique mourir à ta place parce qu'il t'aime. Mais il ne te force pas dans ce mariage avec lui. Si tu ne veux pas, il te laisse libre. Mais le problème, c'est que la liberté que nous recherchons tellement, nous ne savons pas la gérer. Nous ne savons pas bien la gérer. Et Dieu te propose cette vie en abondance. Je ne parle pas de matériel. Et ça se transforme tout doucement en mort, car le mal que je fais aux autres me condamne. Mais prends courage, car il y a une solution, et c'est Jésus, lui qui est mort à ta place, et qui est ressuscité. Et si tu es là pour la première fois, et que tu l'entends pour la première fois, je t'encourage à l'accepter. Et viens à la fin du culte pour qu'on puisse prier, pour qu'on puisse en parler. Mais c'est tellement important. Et vous vous souvenez les questions que je vous ai posées au début ? Si Jésus est vraiment ressuscité, alors écoutons-le. La Bible nous parle de cet homme qui est venu il y a 2000 ans sur cette terre et nous a donné un message qui nous sauve. Mais si Jésus est vraiment ressuscité, alors ne te base pas que sur le monde matériel. Cela veut dire aussi que si à un moment donné le soleil s'est arrêté de tourner, c'est possible. Que si la mer s'est ouverte en deux, eh bien c'est possible. Que s'il y a des guérisons inexpliquées, c'est possible. S'il y a un monde invisible d'anges, de démons et d'un Dieu trinitaire, oui, c'est possible. Si Jésus est vraiment ressuscité, alors la foi n'est pas qu'une question d'un manque en toi. Freud, Marx, Nietzsche ont tort. La foi est simplement normal. On a une âme et elle est faite pour adorer. Le seul problème, c'est ce qu'on va lui donner à adorer. Et si Jésus est vraiment ressuscité, eh bien, c'est une victoire sur la mort et le mal. La foi en Jésus est une joyeuse expérience. Elle débouche sur la vie. Elle est le signe déjà de la victoire à venir sur le mal et sur la mort. Alors, si c'est la première fois que tu entends ce message, viens à la fin pour qu'on puisse discuter parce que c'est trop important. Et pour tous ceux qui ont connu et qui connaissent encore Jésus, eh bien, je vous encourage tellement à vous renouveler sur cette résurrection, à continuer de grandir à lui et de comprendre vraiment ce tombeau vide. Amen.